L'autoroute métropolitaine, écoutez, c'est un axe extrêmement important, autour de 200 000 véhicules par jour. C'est grosso modo 21 kilomètres, hein, entre la 15 puis le boulevard Henri Bourassa. Premier tronçon a été construit en 1959. Fait que, hein, on comprend, hein. Alors là, la ministre responsable de la métropole, Mme Rouleau, donc, qui donne une entrevue à Mathieu Payen du Journal de Montréal, dans laquelle entrevue, elle annonce que la décision a été prise et la métropolitaine va être reconstruite en autoroute surélevée, comme c'est le cas présentement. Pas question de faire ce qu'on a fait avec l'autoroute Bonaventure et d'y aller avec un boulevard urbain là au ras du sol, et puis encore moins question d'un tunnel, on s'entend là-dessus. Et là, moi, je ne sais pas comment vous avez réagi, ou comment vous réagissez en apprenant la nouvelle, mais moi, j'ai été surpris. Je lis 4, 5, 6 journaux par jour, et là, j'apprends dans cette entrevue-là qu'on s'apprête à lancer des grands travaux sur Métropolitaine, en plus de tout ce qui va nous frapper, là, et de tout ce qui nous frappe déjà. Alors, évidemment, il y a des experts qui disent « on pourrait faire autrement ». Il y aurait peut-être moyen de la reconstruire en boulevard urbain. Il y en a d'autres qui disent non, autoroute surélevée, ça va. Alors, pour avoir un peu les différents points de vue, on va aller rejoindre le professeur à Poly Montréal, Nicolas Saunier, qui est également spécialiste du génie des transports. Bonjour, M. Saunier.
Bonjour.
D'abord, êtes-vous surpris, vous, de cette nouvelle? Je veux dire, quand on roule sur Métropolitain, on sait qu'elle est vieillissante et qu'il va falloir à un moment donné la refaire, mais d'apprendre là que la décision est prise puis qu'on va y aller avec une autoroute surélevée. C'est nouveau pour vous ou vous le saviez déjà?
C'est pas nouveau. On l'entendait, on va dire, au travers des branches. Comme vous le dites, là, évidemment, la structure a besoin de ces travaux. Et on l'entendait que donc ces travaux allaient venir. Et donc voilà. Après la décision, et d'une façon générale, je pense qu'il y a, je veux pas être trop critique, mais je pense qu'il y a la communication, on va dire, du ministère pourrait être meilleure, je dirais. Il y a une façon d'amener ce genre de sujet. Qui pourrait peut-être être meilleure, et puis même de la justifier, parce que ce que j'ai pu lire dans le Journal de Montréal des justifications, il manque un peu la décision est prise. Quels ont été les facteurs pris en compte? Pourquoi cette décision? Il manque un petit peu d'informations et encore une fois d'explications aux citoyens.
Oui. Alors, cette décision de reconstruire en surélevé plutôt qu'au ras du sol, qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme spécialiste des transports?
C'est pas évident. La réponse courte, comme plusieurs experts qui se sont déjà prononcés, je dirais que c'est pas surprenant et c'est probablement la meilleure solution, la moins mauvaise plutôt, disons, solution.
Pourquoi? Pourquoi?
Alors, au niveau... Je pense qu'on rêve un petit peu entre guillemets là. Quand on parle, on pense au boulevard urbain parce qu'on a l'exemple de Bonaventure. Mais Bonaventure, c'est quand même particulier puisque c'est essentiellement la fin d'une autoroute qui arrive sur le réseau artériel. Il n'y a pas de raison de continuer. Quand on avait une partie surélevée, qu'est-ce qu'elle faisait à la fin? Elle arrivait et elle se branchait au réseau artériel. C'est la même chose, juste un petit peu plus en amont qu'on a fait. Évidemment, il y a le branchement vers Ville-Marie, mais lui est fait de façon à peu près directe dans ce boulevard urbain. Là, on parle d'un cas qui est quand même complètement différent, auquel s'ajoute en fait que c'est un goulot d'étranglement. On a deux autoroutes qui se croisent sur ce 20 km.
La 15 et la 25. La 15 et la 25.
La 15 et la 25, puis donc la 40 qui est transversale. Donc on pense toujours c'est la métropolitaine, mais en fait on a une autre autoroute qui a des capacités similaires là, puis qui croise sur cette portion du segment. On ne va pas pouvoir répondre à la demande de ce... En fait, si on voulait avoir une gestion... on va dire très autoroutière, très rationnelle de tout ça, sans se préoccuper d'autres impacts, on augmenterait évidemment cette capacité pour répondre à la demande potentielle de ces deux autoroutes qui se croisent à cet endroit-là. Pour d'autres raisons d'encouragement ou pas des différents modes de transport, on ne veut pas forcément faire ça. Mais par contre, si on fait un boulevard urbain, on n'aurait certainement ni la capacité pour se répondre à ces débits actuels, à ces volumes de véhicules. Et je ne peux pas imaginer à quel type d'aménagement de boulevard urbain pourrait avoir un quelconque intérêt en termes d'intégration urbaine. Quelque part, on est mieux d'isoler cette autoroute, cet axe majeur de mobilité, et laisser, pour autant qu'on peut, une certaine porosité, là, une perméabilité pour les autres modes au niveau du sol.
Mais quand on lit,
c'était une très bonne raison. Oui.
Mais on lit ce matin, là, il y a des experts, il y a des spécialistes, notamment Pierre-Léo Bourbonnet de la chaire mobilité de l'École polytechnique. C'est un de vos confrères. qui dit « C'est une grave erreur de refaire ça à l'identique. Dans le monde entier, on met les rues au niveau du sol et on ajoute du transport en commun pour redonner de la vie au quartier. Ouais. Vaudrait mieux aussi, dit-il, sortir les camions de la ville en finissant le contournement de Montréal au nord par la 640 ou la 440.
» Écoute, il faut que j'en discute. Je n'ai pas discuté directement avec lui avant. J'irais dans son sens, mais il faudrait pour cela regarder à une échelle beaucoup plus large. Si, c'est souvent une question de c'est quoi les variables qu'on se donne dans le problème. Si la variable, c'est juste comment est-ce qu'on reconstruit ce morceau, cette portion du réseau, il me semble encore une fois que la reconstruire telle qu'elle est, c'est la moins mauvaise solution. Si on pense à l'échelle régionale, et là, on a d'autres solutions, effectivement. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour le réseau de l'autoroute? La solution ne peut pas être, si on a une autoroute transversale est-ouest comme la métropolitaine, on ne va pas juste la couper au milieu et pour en faire un boulevard urbain. Ça n'a pas vraiment de sens non plus. Donc, par contre, si on a une solution à l'échelle régionale d'avoir des autoroutes de contournement et qu'on retire l'autoroute essentiellement de l'île de Montréal parce qu'on veut veut limiter le trafic de transit au milieu de l'île. C'est possible, mais je vois pas de solution partielle à cet endroit-là. On va juste
on peut pas
avec le reste.
Non, non, mais là, on peut pas enlever, dans une ville qui est déjà ultra congestionnée, on peut pas enlever la métropolitaine là, d'un coup. Là. C'est impossible. Impossible.
Ben, dans le réseau actuel, effectivement, non.
Impossible.
Effectivement. Sans avoir des solutions alternatives sur cet axe, par exemple, effectivement.
Mais l'autre problème, en reconstruisant tel quel, avec les trois voies dans les deux sens, c'est que c'est clair qu'on ne sera pas capable, ou en tout cas, je vois pas là, comment on va pouvoir ajouter du transport en commun, là. Par exemple, une voie réservée, parce qu'on est, on est déjà à surcapacité. Puis avec, quand on regarde de part et d'autre, on est sur métropolitaine, on regarde de part et d'autre, je vois mal, moi, je pense qu'on peut pas l'élargir, on pourrait pas rajouter une quatrième voie dans chacun des sens pour ajouter, mettons, une voie réservée pour des autobus. Fait que j'ai l'impression qu'on est comme un peu prisonnier, là, de l'environnement.
Oui. Puis il faut qu'on fasse des choix, effectivement. Donc, encore une fois, il faudrait moduler un peu la discussion en termes de capacité. Est-ce que on veut pas déplacer des autos? Donc, on veut déplacer des gens. Si on mettait des services à plus haute capacité, un bus en site propre qui serait, on va dire, bien connecté au reste, c'est quelque chose qui pourrait transporter plus de monde. Donc, on pourrait quand même augmenter la capacité en termes de personnes déplacées si on choisit d'autres modes. On n'est pas forcément là ou on n'en est pas forcément à cette réflexion-là, mais effectivement, c'est contraint, mais c'est aussi c'est ce qui fait que justement le transport en commun va être viable à d'autres endroits parce qu'on ne peut juste pas passer plus d'auto. C'est un problème global et si on rend les modes autoconducteurs plus attractifs, on va avoir de nouveau un transfert vers ce mode-là. Donc j'ai tendance à dire d'un point de vue durabilité globale, c'était à peu près clair qu'on n'allait pas augmenter la capacité ici.
C'est dommage.
Quelles sont les solutions alternatives et globales? C'est dommage. Nous, on regarde les impacts globaux. Aujourd'hui, notre système n'est pas durable. Donc, par contre, c'est certain que, encore une fois, les ministères, la discussion publique doit être à un autre niveau. Elle doit être, qu'est-ce qu'on est prêt, quels sont nos objectifs en tant que société, quels sont les impacts environnementaux. Et quelque part, il faut que le discours soit au niveau de préparer les gens à des modifications de comportement. On ne va pas faire évoluer la durabilité de notre système si on demande aux gens de ne pas modifier leur comportement.
Donc, dans le fond, ce que vous nous dites, là, c'est si on n'est pas capable d'élargir, si on n'est pas capable d'ajouter des voies, il faut diminuer le volume sur l'infrastructure. Puis là, c'est dans ce
sens-là. En fait, il faut le garder. On peut le garder. Ce qu'on devrait rapporter comme chiffre, c'est combien de personnes sont déplacées. Et comme dirait ma collègue Catherine Mancy, on déplace aujourd'hui beaucoup de sièges vides. C'est de solutions qu'on connaît bien, le covoiturage, etc. Et on sait que c'est difficile à faire, mais ça reste qu'il y a énormément de capacités sur cette infrastructure en termes de personnes déplacées, par exemple.
C'est clair. Quand on se promène tout seul dans sa voiture, l'idéal, ce serait qu'on soit pas seul, justement, et puis qu'il y ait d'autres passagers avec nous. Mais là, on rentre dans le transport collaboratif et tout le reste. Mais il y a déjà des gens, quand même, qui travaillent là-dessus. Et éventuellement, il y a des modèles qui sont en train de se développer pour que, au lieu de se promener seul, qu'on amène des gens avec nous, des gens, par exemple, qui sont sur le même trajet au même moment chaque jour. Et puis, évidemment, il y aurait une petite rémunération qui serait liée à ça. On serait, d'une certaine façon, des chauffeurs, soir et matin. On amènerait des gens avec nous, on les ramènerait avec nous. Mais évidemment, ça soulève d'abord une question de logistique, comment on s'organise et tout ça. Il faut que les gens soient prêts à le faire. Puis évidemment, ça a un impact sur le reste des transporteurs, notamment l'industrie du taxi. Alors là, on en a pour des années de débat. Mon cher Nicolas Saunier, professeur à Poly-Montréal et spécialiste du génie des transports. Merci.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée. Dans un instant, la politique avec Paul et Carl.